Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. Lors de cette 8e série d'études consacrée au livre de l'Exode, nous abordons le chapitre 20. Il s'agit de l'un des chapitres les plus importants de toute la Bible, car il contient les 10 commandements. La dernière fois, en compagnie de Didier, nous avons étudié le 9e commandement, qui consiste en l'interdiction de porter un faux témoignage contre son voisin. Aujourd'hui, nous allons aborder le 10e et dernier commandement. Didier est de retour parmi nous pour nous faire part de ses réflexions. Didier, bonjour.
Merci Yann, et bonjour à tous. Alors, ce 10e commandement donne un ordre formel. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. Nous pouvons définir le mot convoitise ainsi. Il s'agit d'un désir immodéré de posséder quelque chose, et notamment dans le cas de ce commandement, de posséder ce qui appartient déjà à quelqu'un d'autre.
Toutefois, ce commandement semble différent des autres, car la convoitise n'est pas un passage à l'acte, comme la fabrication d'une idole ou effectuer un vol. Non, la convoitise est plutôt une attitude de cœur. Les actes mauvais sont visibles, tandis que la convoitise, elle peut rester cachée.
Vous avez raison, Yann. Et il est donc très intéressant et important de noter que l'interdiction portant sur la convoitise se trouve inclue dans cette liste de commandements.
Que pouvons-nous donc en apprendre ?
Nous devons en conclure que le problème de la désobéissance à la loi, autrement dit le problème du péché, est d'abord et surtout un problème de cœur, un problème qui trouve son origine dans notre fort intérieur, dans nos désirs les plus profonds.
Pouvez-vous vous expliquer davantage, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Désobéir à la loi ne vient pas tout d'un coup, par hasard. Non, derrière tout acte de désobéissance, il y a toujours une raison. Et la plupart du temps, c'est parce que nous laissons de mauvais sentiments ou des désirs impurs se développer dans nos cœurs. Ces désirs peuvent devenir si forts que nous sommes prêts à agir pour les satisfaire et même prêts à désobéir à la loi. Permettez-moi de donner quelques exemples. Un ami d'enfance devient assez riche alors que vous avez du mal à vous en sortir dans la vie. Et maintenant, la pauvreté vous guette. Votre ami vous abandonne car il gravit les échelons professionnels et vous le voyez même se déplacer en voiture de luxe. De plus, sa femme est parée de beaux bijoux précieux. Il habite une villa luxueuse. La rancune et la convoitise s'installent dans votre cœur. Vous aimeriez tellement être comme lui. Posséder ce qu'il possède, jouir des richesses dont il jouit. Puis un jour, vous passez devant sa voiture, garée près du marché. Il n'y a personne à l'intérieur, mais vous remarquez un portefeuille sur le siège avec d'autres objets de valeur. Alors vous essayez d'ouvrir la portière, et à votre grande surprise, elle n'est pas fermée à clé. Vous profitez de l'occasion pour voler le portefeuille et tous les objets de valeur. Prenez un autre exemple. La femme de votre voisin semble plus jolie et plus charmante que la vôtre. Alors vous commencez à penser souvent à elle et à la désirer. La convoitise va en grandissant dans votre cœur et vous cherchez de petites occasions pour lui parler, pour la connaître davantage, ce qui attise encore vos désirs. Jusqu'au jour où l'opportunité se présente et l'adultère est commis. Voyez-vous, dans ces deux exemples, c'est la convoitise qui conduit inlassablement, tôt ou tard, à commettre le péché. Nous affirmons donc que tout acte de désobéissance commence par de mauvais désirs, des sentiments impurs que nous laissons grandir dans nos cœurs. Or, ces désirs, si nous ne les maîtrisons pas, deviennent dangereux, car ils peuvent nous conduire à désobéir à Dieu, que ce soit en ayant recours à un faux témoignage, en commettant un vol, un adultère, un meurtre ou bien d'autres péchés encore.
Ces propos me rappellent l'enseignement de Jésus que nous avons déjà évoqué lors de cette série sur les 10 commandements.
Oui, Jésus confirme effectivement que le péché commence avec les mauvais désirs ou les sentiments qui grandissent dans notre cœur. Écoutons un extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 21 à 24 et 27 à 29.
Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ?» Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer.
Jésus insiste donc sur le fait que les sentiments et les pensées qui dévient vers la haine ou les désirs impurs sont des péchés graves et qu'il faut agir avec détermination pour les enrayer dans nos cœurs. Si Jésus parle d'arracher un œil pour nous empêcher de regarder une femme de façon inappropriée, il ne faut pas comprendre cela littéralement, mais plutôt de façon figurative. En effet, il faut agir, il faut faire quelque chose, il faut mener un combat contre ses désirs, car ils représentent un grand danger.
Merci Didier pour cet avertissement clair. Y a-t-il d'autres leçons à retenir de ce 10e commandement ?
Oui, je voudrais évoquer une dernière leçon. Beaucoup, en lisant les 9 premiers commandements, peuvent penser « Bon, je n'ai pas commis de telles fautes, ou ces crimes graves tels que le vol ou l'adultère. » Et puis de conclure « Je suis donc bien, il n'y a pas vraiment de mal en moi, je n'ai pas de problème devant Dieu. » Le 10e commandement, en insistant sur le péché qui a pour origine la convoitise, prouve que ce raisonnement est faux. Qui oserait affirmer qu'il n'a jamais convoité quelque chose ? Qui oserait affirmer qu'il n'a jamais eu de mauvais désirs ? Qu'il n'a jamais ressenti de la haine ou de la colère ? Non. Le péché, selon ce commandement, naît dans les cœurs, et ce commandement nous apprend que nous sommes tous coupables. Il n'y a pas d'exception.
Il s'agit là d'une conclusion assez sombre.
C'est vrai, Yann. Toutefois, si la Bible dépeint de façon honnête et brutale la réalité du péché enraciné dans le cœur humain, elle introduit aussi une note d'espoir. Dieu a non seulement révélé à Moïse les 10 commandements et bien d'autres lois supplémentaires, mais il a aussi donné au peuple de Dieu un nombre de rites et de sacrifices qu'il devait accomplir. Nous pouvons en lire les détails. Ils se trouvent surtout dans le livre du Lévitique, qui fait suite à celui de l'Exode. Le but de ces sacrifices était de purifier les gens de leur impureté morale, spirituelle et rituelle. Par ces sacrifices, le peuple trouvait le pardon de ses péchés auprès de Dieu et pouvait donc s'approcher de lui, vivre en communion avec lui. Puis, dans le Nouveau Testament, nous apprenons que ces sacrifices servent en fait, tels des panneaux de signalisation, à orienter nos regards vers le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Là, sur la croix, Jésus a porté tous nos péchés, toutes nos fautes, et il a enduré le châtiment de Dieu à notre place. Grâce à son sacrifice, nous trouvons auprès de Dieu le pardon, la purification et la réconciliation. Il n'y a plus de condamnation. Nous pouvons nous approcher de Dieu et vivre en communion avec lui, aujourd'hui et pour l'éternité. Comme le dit l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 1, le verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. »
Merci Didier pour ce beau rappel de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et merci pour votre participation enrichissante tout au long de cette série.
Merci Yann pour votre invitation. Et au revoir à tous.
Oui, merci Didier. À présent, le moment est venu d'introduire notre courte méditation biblique, qui reprend ce même thème de la convoitise, tout en nous donnant quelques conseils pour la combattre. Claude ne fera pas de ces réflexions, mais écoutons d'abord la lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 11 à 13.
J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie.
Nous avons appris que la convoitise est le désir immodéré d'obtenir quelque chose que nous n'avons pas et que ce désir peut nous pousser à désobéir à Dieu. Comment donc dompter ces convoitises qui représentent un danger spirituel? L'apôtre Paul donne un élément de réponse intéressant. Il nous dit qu'il a appris à être satisfait avec ce qu'il a et tout ce que Dieu lui donne en toutes circonstances. L'apôtre, en raison de son ministère, qui consiste à colporter la bonne nouvelle, a connu la pauvreté. Il aurait pu alors convoiter des richesses. Paul a aussi connu le célibat. De ce fait, il aurait pu convoiter des femmes. L'apôtre a connu la souffrance. Il aurait pu alors convoiter une vie plus confortable, sans sacrifice ni peine. Cependant, il a appris à être content ou satisfait en toutes circonstances. Comment ? L'apôtre Paul était heureux de connaître Jésus-Christ. Paul savait qu'en Christ, il possédait ce qui existe de plus précieux. Comment tomber dans la convoitise lorsque nous savons qu'en Christ, nous avons le meilleur des trésors ? Quelle est donc la meilleure méthode pour combattre la convoitise ? C'est en se souvenant de la parole de Dieu et en méditant sur la personne de Jésus-Christ et toutes les riches bénédictions spirituelles qu'il nous donne par sa grâce. En répétant à deux reprises « J'ai appris », l'apôtre Paul confesse qu'il lui a fallu du temps pour assimiler cette leçon. Oui, nous sommes engagés dans un combat. Nous oublions si facilement ce que nous avons en Christ. Nous sommes rapidement distraits par le monde et ses séductions, ainsi que par nos préoccupations et nos épreuves. Cependant, c'est en Jésus que nous trouvons la véritable paix, la joie et le bien-être. Cela vaut la peine d'apprendre à être satisfait par lui, car le monde ne nous satisfera jamais.
Merci Claude pour ce remède essentiel à la convoitise. C'est ainsi que notre série sur les 10 commandements se termine. Et une fois de plus, nous remercions nos deux invités de nous avoir si bien éclairés sur ces textes importants. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.